Bonsoir à toutes et à tous. L'exécutif cherche à renforcer son arsenal législatif contre les propos haineux en ligne et plaide pour une régulation beaucoup plus forte des réseaux sociaux. Bruxelles y travaille déjà et doit présenter dans quelques semaines un projet de législation sur les services numériques. Les grandes lignes dans ce journal avec le commissaire européen Thierry Breton. Dans ce journal, le scepticisme des syndicats d'enseignants face à la proposition de cadrage du ministre de l'Éducation après la mort de Samuel Paty. À une semaine de la rentrée, Jean-Michel Blanquer tente d'apaiser leurs inquiétudes. L'épidémie de Covid-19 inquiète en Europe. L'Espagne prend les devants et décrète un état d'urgence sanitaire pour 6 mois et le couvre-feu sur la quasi-totalité de son territoire. 9 jours après l'assassinat de Samuel Paty, enseignant au collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, le gouvernement entend renforcer son arsenal législatif en sanctionnant notamment ceux qui publient en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui. Le Premier ministre a plaidé vendredi à Bruxelles pour une régulation beaucoup plus forte des réseaux sociaux. Idée réaffirmée aujourd'hui par Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, qui demande à ce que l'État ait un droit de regard et puisse imposer une modération forte des réseaux sociaux. Bonsoir Thierry Breton.
Bonsoir.
Commissaire européen au marché intérieur et au numérique, vous avez donc rencontré Jean Castex et vous devez présenter le 2 décembre prochain une législation sur les services numériques pour mieux réguler ces géants de la tech, entre autres sur ces questions de propos haineux en ligne. Alors est-ce possible, tout simplement, que l'État ait ce droit de regard sur les réseaux sociaux ?
Je crois que vous faites bien de rappeler que c'est un sujet qui concerne le continent européen. Nos auditeurs sont bien conscients que les plateformes, les réseaux sociaux n'ont pas de frontières. Et il faut bien que tout le monde comprenne que c'est au niveau européen qu'on va le traiter. Alors bien sûr, je comprends très bien les velléités légitimes. Et surtout, regarde l'émotion immense qui a été causée par la tragédie que rappeler implicitement, et notamment le rôle des réseaux sociaux. Mais nous sommes un continent qui fonctionne sur des règles de droit. Et c'est l'Europe qui va précisément, et au fond, le timing, si je puis m'exprimer ainsi, est plutôt bien, puisque l'Europe va proposer cette très importante législation, acte législatif, directive, comme on l'appelle, qui va se décliner ensuite dans chacun des États membres et dès le 2 décembre. Donc oui, nous allons précisément nous doter des moyens nécessaires, juridiques, mais pas que, et on aura le temps d'en reparler j'imagine, pour faire en sorte que précisément, voyez-vous, tout ce qui se passe hors des réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, et qui est réglementé, qui est organisé, eh bien, se passe également dans les réseaux sociaux et qu'il n'y ait plus de zone de non-droit dans les réseaux sociaux.
Il y aura donc des propositions de la Commission
plus que des propositions
européennes. Merci beaucoup, Thierry Breton.
Thierry Breton qu'on retrouve dans Soft Power juste après la suite du journal de Sarah Mansoura.
Un cadrage clair à la rentrée, c'est ce que promet le ministre de l'Éducation pour répondre à l'inquiétude des enseignants quant au discours à tenir après l'assassinat de leur collègue Samuel Paty le 16 octobre dernier. Une rentrée en 3 temps, dit Jean-Michel Blanquer, mais qui suscite déjà des interrogations chez les enseignants, Louise Adélaïde Boinard.
Sur les 3 temps envisagés par Jean-Michel Blanquer, 2 conviennent aux syndicats enseignants. Le temps de préparation et d'échange entre le personnel des établissements et la minute de silence suivie par la lecture de la lettre de Jean Jaurès à son instituteur. Le problème, c'est le temps de réaffirmation des valeurs de la République avec les élèves. Cette mesure est trop précipitée et contraignante pour Jean-Rémy Girard de la SNALC.
Le fait d'imposer pédagogiquement des objets ou des documents, ça sera très très compliqué, surtout si les collègues ont très peu de temps pour se les approprier. Donc nous, on demande que la liberté pédagogique soit respectée et qu'on étale l'aspect pédagogique sur au moins toute la semaine, ne pas se forcer à tout grouper dans cette journée du 2 novembre qui risque sinon d'être éventuellement compliquée à gérer.
Pour Frédéric Marchand de l'UNSA, la liberté doit aussi se trouver dans la forme de cet échange, sinon il sera contre-productif.
Pour protéger les équipes, pour aider, il faut leur laisser la main sur la façon dont on l'organise, c'est-à-dire pas le cadrer nécessairement sur dire c'est une classe avec 2 personnes à chaque fois partout. Il y a d'autres possibilités, il peut y avoir des approches plus collectives.
Les syndicats enseignants revoient le ministre mardi pour continuer d'organiser cette rentrée sous tension.
Louise Adélaïde Boinard, l'épidémie de coronavirus continue sa progression en France et plus que le nombre de cas positifs déclarés, ce sont les taux d'occupation des services de réanimation qui inquiètent. On y trouve de plus en plus de patients Covid. Pour Lamine Garbi, président de la Fédération d'hospitalisation privée, cette situation tendue se ressent également dans les hôpitaux privés.
60% de nos réanimations sont actuellement occupées par des patients Covid. Et c'est vrai que ce qui se passait au printemps dernier n'est pas reproduit, et c'est tant mieux, c'est-à-dire que la régulation, le centre 15, les pompiers font appel aux cliniques privées. C'est une satisfaction, si je puis dire, car nous pouvons prendre une part importante de lutte contre cette pandémie, vu que nous avons 30% des capacités de réanimation sur le territoire. Donc ce serait bête, pour dire simplement, de s'en passer. Et il n'y a pas que les lits de réanimation. On a un nombre important de lits de médecine pour accueillir ces patients-là. Et puis aussi, il y a des lits de soins de suite, d'adaptation qui peuvent se transformer en médecine ou qui même peuvent accueillir des patients Covid. Sur Saint-Étienne, la complémentarité se fait parfaitement et d'ailleurs, on a pu noter que sur les 4 patients qui ont été mutés sur Bordeaux, 2 étaient du privé, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons des difficultés et nous aussi, nous sommes en saturation sur certains territoires.
Et pour lutter contre l'épidémie, le gouvernement n'exclut plus l'hypothèse d'un reconfinement. Cédric O a affirmé ce matin qu'il ne faut absolument rien écarter. 6 mois d'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire. La décision a été officialisée cet après-midi en Espagne. Le Premier ministre Pedro Sanchez annonce qu'il accompagne d'un couvre-feu généralisé, à l'exception des îles Canaries, pour tenter de briser cette deuxième vague de Covid-19. Marie-Hélène Ballestero.
2 jours après son allocution télévisée, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a offert une conférence de presse depuis le palais de la Moncloa. Comme prévu, il a annoncé sur un ton grave la nouvelle que les Espagnols présupposent.
La situation que nous vivons est extrême. Par conséquent, nous adoptons de nouveau l'état d'urgence, car c'est l'outil le plus efficace pour infléchir la courbe des cas de contagion et combattre le virus. Nous le savons, la bataille va être dure, mais avec de la discipline sociale, la résistance, l'unité et un esprit de victoire, nous allons de nouveau réussir.
Contrairement au mois de mars, cet état d'urgence sanitaire n'a pas pour objectif de décréter un confinement général dans tout le pays, ni de centraliser les politiques de santé. Les régions espagnoles compétentes en la matière vont donc poursuivre leur gestion. La majorité d'entre elles avait d'ailleurs réclamé ces derniers jours au gouvernement central de décréter cet état d'urgence qui leur permettra désormais de disposer de ce parapluie légal pour adopter les mesures de restriction à la mobilité de la population sans dépendre de la décision des tribunaux de justice régionaux. Par ailleurs, l'exécutif de Pedro Sanchez a proclamé un couvre-feu nocturne pour tout le pays, sauf les îles Canaries, allant de 23h à 6h du matin, avec la possibilité pour les régions d'avancer ou de retarder d'une heure. L'état d'urgence devrait rester actif pendant 6 mois. Sa durée initiale est de 15 jours, comme le prévoit la Constitution, mais le gouvernement espagnol souhaite demander dès cette semaine aux députés de le prolonger jusqu'au 9 mai.
Plus de bars ni de restaurants en Italie passé 18h. C'est la mesure prise par le Premier ministre Giuseppe Conte. Elle s'appliquera dès demain de l'autre côté des Alpes. Les cinémas, les théâtres ou les piscines devront également baisser le rideau. 24 morts et 57 blessés à déplorer à Kaboul. Le nouveau bilan de l'attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique hier dans la capitale afghane. Le gouvernement annonce aussi qu'un important dirigeant d'Al-Qaïda, également recherché par les États-Unis, a été tué. Alors que l'ambassadeur turc est rappelé à Paris pour consultation, Recep Tayyip Erdogan persiste et signe. Le président turc ne retire rien de ses propos sur son homologue français et lui intime une nouvelle fois de se faire soigner. Il vise les propos il y a 2 semaines d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste. Le président français qui défendait aussi cette semaine le droit à la caricature. Une attitude qui irrite dans plusieurs pays à majorité musulmane, d'où émergent des appels au boycott de produits français. Paris évoque une campagne islamiste organisée contre la France. Pour autant, selon le politologue Hassani Abidi, cette réponse n'est ni unanime ni organisée.
La réponse dans les pays musulmans, elle n'est pas généralisée. Elle est dans certains États. Elle est partie aussi d'une organisation, l'organisation de la conférence islamique. Il n'y a pas de consensus sur cette réaction ou sur l'appel au boycott de produits français. C'est complètement différent de la première réaction, souvenez-vous, après la publication de caricatures dans un journal danois. Là, il y avait un appel presque officielle de la part de plusieurs États et les produits danois ont complètement disparu des marchés. En revanche, là, on assiste plutôt, vous avez vu, dans certains pays comme le Koweït, comme le Qatar, où ce sont des coopératives, c'est-à-dire que l'État lui-même est dépassé par cet appel au boycott, qui a été, c'est vrai, relayé par certains partis politiques qui ont plutôt des contentions avec les États eux-mêmes. Là où il y avait des communiqués immanents du ministère des Affaires étrangères, comme la Jordanie, comme le Koweït, on a senti une certaine liberté de la part de la population, mais aussi un déchaînement des réseaux sociaux. En revanche, dans d'autres États comme l'Égypte, il y a la réaction de Lazar, mais elle n'a pas été traduite sur le terrain. L'Arabie Saoudite, par exemple, ou les Émirats, où certains intellectuels et certains hommes politiques ont appelé à ne pas boycotter les produits français en disant « Attention, la guerre que mène la France est une guerre contre l'islamisme politique et non pas contre l'islam. »
Hassni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche du monde arabe et méditerranéen, il répondait à Jules de Kiss. Une nouvelle manifestation cet après-midi à Minsk pour exiger le départ d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans. C'est le dernier jour de l'ultimatum lancé par l'opposition. Sa figure de proue, Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée en Lituanie, avait fait savoir ce mois-ci qu'elle appellerait à une grève générale si le président ne se retirait pas aujourd'hui. Le temps pour demain, nuageux avec des pluies parfois marquées sur l'est du pays et sur la façade ouest. Ailleurs, un temps variable. Les températures de 7 degrés à Alençon et Aurillac et jusqu'à 18 degrés en Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia à la technique, Sylvain Latu. Vous êtes